pour un demi-siècle qui va de la fin de la guerre jusqu'en 1991. Nous avons beaucoup parlé de diplomatie, de relations politiques, de politique internationale. Alors il est peut-être temps de, comment dire, s'aérer un peu l'esprit et de faire place aux activités plus culturelles. Je l'ai d'ailleurs fait remarquer, j'ai été un petit peu surpris que dans toutes les considérations qui ont été faites sur l'activité des ambassadeurs que l'on a examinées, il était si peu question des affaires et des relations culturelles.
Parce qu'elle pose pas de problème.
Comment ?
Parce qu'elle pose pas de problème.
C'est dommage de ne pas le dire et c'est dommage de ne pas rappeler qu'il y a eu de grandes et belles réalisations dans ce domaine et qui ont certainement été épargnées par les quelques polémiques ou malentendus dont on a parlé par ailleurs. Voilà, donc nous allons procéder maintenant à la remise du prix italique 2022. Qu'est-ce que c'est que le prix italique que décerne notre association? C'est un prix qui est attribué alternativement chaque année, soit à un auteur italien qui a réalisé une œuvre portant sur la France. Alors quand on dit une œuvre, c'est très large. Ça peut être de la littérature, de l'histoire, de la politique. Tous les sujets sont abordables. Et le support de l'œuvre elle-même peut être effectivement de l'écrit, une œuvre audiovisuelle. On a même couronné par le passé un metteur en scène, on a couronné un chef d'orchestre. Voilà. L'essentiel, c'est que ça soit vraiment franco-italien ou italo-français, que le titulaire apparaisse comme une de ces personnalités qui font converger la culture de nos deux pays. Donc cette année, effectivement, nous avions pour objectif de récompenser un auteur français d'une œuvre sur l'Italie. Le jury du prix était composé, je vous l'annonce, je ne pense pas que les membres du jury y voient un inconvénient, par de 10 personnes, Paolo Carrile, Benedetta Craveri, Jean Gigli, ils sont tous ici présents, Marianne Matarbonucci, Letizia Norci Caggiano, qui nous a fait savoir qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle est à Rome actuellement pour un grand colloque consacré à De l'amour de Stendhal pour son 50e anniversaire. Enfin, je sais plus, mais on célèbre effectivement un anniversaire de l'amour de Stendhal à Rome à la fin de la Prix. Je continue en énumération. Marie-France Renard, Xavier Tabé et François Bitrami, et évidemment moi-même comme président du jury. Et donc, la procédure a été enclenchée au mois d'avril, au printemps. Elle a donné lieu à toute une série d'échanges entre les membres du jury et c'est René de Secati qui a été notre lauréat pour son dernier ouvrage consacré à Pier Paolo Pasolini qui s'appelle « Avec Pier Paolo Pasolini ». Voilà, alors je vous demande d'applaudir notre lauréat. Voilà, et donc je me permettrai de dire deux mots. Je sais bien que je n'aurai rien à vous apprendre sur l'œuvre de Secati, mais je tiens quand même à dire que je cherche une formule, un explorateur infatigable de la littérature en général, et de la littérature italienne en particulier, romancier, poète, traducteur, dramaturge, éditeur, directeur de collection, j'oublie sans doute quelques critiques, bien sûr, critiques essayistes. Bon, donc une personnalité guidée par une curiosité insatiable, inassouvissable, sans limite de temps ni d'espace, puisqu'ici nous sommes dans le franco-italien, mais René de Secati a également toute une dimension japonaise. Mais bon, ça, ce n'est pas de cela que je parlerai. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est son goût particulier pour la littérature italienne. Et de ce point de vue, René Secati illustre ce qu'on appelle la figure du passeur, c'est-à-dire celui qui fait transiter une œuvre d'un pays à l'autre, qui organise la migration d'une langue à une autre langue. Il a traduit une grande quantité de poètes et de romanciers, à commencer par le plus grand Dante, non, traduction de la Divine Comédie, qu'on a eu l'occasion de présenter l'an dernier à l'occasion du 7e centenaire de la mort de Dante. Il a traduit Leopardi également, donc Dante et Leopardi, voilà déjà, ce qui en dit long sur ses préférences, et puis des grands écrivains du XXe siècle. Saba, Savigno, Moravia, Del Giudice, Rosetta Loy et bien d'autres. Et récemment, je tiens à le signaler tout de même, le très beau livre d'Edith Bruck, Il pane perduto, le pain perdu, dont je n'aurai rien de vous recommander la lecture. Quant à Pasolini, eh bien c'est l'homme de Pasolini en France, il n'y a pas de doute. Hein. Il a écrit sa biographie, et d'ailleurs la biographie de toute une série de personnes qui ont été des proches, qui étaient la mouvance de Pasolini, le cercle d'amitié de Pasolini. Hein. Biographie de Maria Callas, de Moravia et Elsa Morante. Donc trois personnes vraiment très étroitement liées à Pasolini par des liens d'amitié fortes. De Pasolini lui-même, il a traduit une grande partie de l'œuvre poétique, et ça c'est peut-être la chose la plus originale, parce que la poésie de Pasolini a été découverte de façon plus récente et peut-être plus laborieuse en France que ne l'ont été ses premiers romans en particulier. Et puis, il a également traduit son recueil d'essais, de critiques, de description, et le fameux roman, je dis roman entre guillemets, intitulé Petrolio, la dernière œuvre sur laquelle travaillait Pasolini quand il est mort tragiquement, la dernière œuvre inachevée, mais peut-être que l'inachèvement était déjà programmé par l'auteur, et qui avait l'ambition d'inventer une forme complètement nouvelle, une sorte d'œuvre totale qui aurait été, toute chose égale par ailleurs, la Divine Comédie de Pasolini d'une certaine manière. Voilà, donc, et je signale d'ailleurs que Petrolio, la traduction de Petrolio, Petrol, vient d'être réédité par Gallimard. C'est un gros livre de 900 pages, mais qui est un univers dans lequel il faut s'immerger et qui provoque des sensations très fortes. Alors, Pasolini, on sait que c'est l'année de son centenaire, donc il y a abondance de célébrations, pour le meilleur, pour le moins bon, mais l'intérêt c'est de montrer que la fascination pour le personnage et pour l'écrivain Pasolini reste entière, qu'elle ne s'est pas affaiblie avec le temps, que presque 50 ans, 47 ans après sa disparition, il reste très présent. Et pourquoi reste-t-il présent ? Parce que sans doute que ce qui l'animait, cette sorte de rage polémique qu'il faisait réagir contre le conformisme ambiant, la société de consommation, l'hédonisme de masse et toute l'hypocrisie qui allait avec, la sous-culture véhiculée par les mass-médias, vous savez qu'il était, il considérait la télévision comme un instrument, strumento di diseducazione. Bien, je me demande ce qu'il aurait dit s'il avait constaté à quel point on en était en matière de communication. grâce au miracle de l'électronique, mais bon. Et donc, ce qui alors apparaissait comme colère très forte, se manifestant par des imprécations, apparaît aujourd'hui comme la juste réaction face à une société qui ne brille pas par la dignité. Voilà, mais quelle que soit la force du polémiste, qu'il a surtout exprimé dans les dernières années de sa création, elle ne suffit pas à rendre justice de son génie créateur. Et je crois que c'est là que le dernier livre de René de Ségati, qui reparcourt sur plus d'un demi-siècle ses relations avec Pasolini, c'est là donc que on se rend compte qu'au-delà de sa veine de polémiste, il y a chez Pasolini une capacité à jouer sur un clavier très large, de conjuguer toutes sortes de moyens expressifs, la parole, l'image, bien sûr, le cinéma, le langage poétique et toutes les formes nouvelles qu'il a pu inventer. Et puis, au-delà de cette tension souvent exaspérée et parfois peut-être un peu excessivement mise en exergue, c'est quelqu'un, on ne doit pas oublier la sensibilité du poète, la tendresse pour ses années de jeunesse, la générosité et l'intérêt qu'il a montré à travers le monde des borgate en particulier, et d'une façon générale des non privilégiés. Voilà, donc il faut remercier René de Ségati pour tout ce qu'il a fait pour Pasolini. Ce livre, d'ailleurs, il pourrait s'intituler « Ma vie avec Pier Paolo Pasolini ». Parce que ce qu'on y apprend de nouveau, enfin moi, ce que j'ai appris de nouveau, c'est que votre relation avec Pasolini, elle est très ancienne. Elle remonte à 1970, au moment où un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, a l'audace, la témérité d'écrire à Pasolini, au sommet de sa gloire, pour lui dire qu'il a rédigé une nouvelle, un petit roman, après avoir vu son film Théorème, et qu'il demande à Pasolini s'il veut bien lui faire la grâce, l'amitié, de le relire et de lui faire savoir ce qu'il en pense. 1970. Avec l'espoir, bien entendu, de pouvoir le rencontrer. Mais bon, les circonstances ne permettent pas que ça se passe tout de suite, bien que Pasolini réponde, et réponde de façon fort engageante. Mais voilà, le temps passera, et malheureusement, 5 ans plus tard, Pasolini connaîtra la fin tragique que vous connaissez tous. Donc ce livre est, voilà, vraiment, c'est une somme, certes, mais c'est une somme qui fait apparaître une vision inspirée par une grande sensibilité. Il écrit, par exemple, depuis cette époque, Pasolini appartient à ma vie intérieure et à ma vie littéraire. J'ai commencé à le lire quand j'étais en mesure de lire des livres destinés à des adultes, c'est-à-dire à partir de l'âge de 16 ans. Il a donc totalement guidé ma formation intellectuelle. C'est aussi à lui que je dois d'être devenu traducteur d'italien. Donc nous devons aussi remercier Pasolini pour avoir mis le pied à l'étrier de René de Ségati. Voilà. Alors, je dois dire qu'en lisant ce livre, en lisant ces notes, j'ai repensé à ceux que les gens de ma génération, généralement plus anciennes que la vôtre, effectivement, ont été contemporains des productions de Pasolini. J'ai vu Accattone en 1964, donc j'avais 18 ans. J'ai vu Relativity vite, on devait être en 70. Et c'est vrai que c'est curieux, ce télescopage temporel qui fait que tout cela remonte à plus d'un demi-siècle et que Pasolini est toujours là. Mais je crois que tout ça ressort très bien de votre travail. Et donc, l'association italique se réjouit d'avoir trouvé un aussi bon lauréat. Et vous en remercie. Voilà. Alors, le prix est strictement honorifique. Et d'ailleurs, il honore beaucoup plus Italique que les lauréats. C'est simplement un petit diplôme que l'on vous remet. Je ne sais pas, il faudra peut-être que je le signe d'ailleurs. Mais voilà, sachez en tout cas que c'est vraiment de tout cœur et avec beaucoup de plaisir que nous vous consacrons lauréat du prix Italique 2022.
Merci infiniment. Bien sûr, je suis très, très heureux et très honoré de d'abord en sachant qui me donne ce prix, des personnes que j'admire beaucoup, que je lis, et donc c'est pour moi très. Ce n'est pas un prix anonyme, c'est un prix qui a un sens très profond de l'amitié et aussi, bien sûr, de la rencontre entre deux cultures. Comme vous l'avez dit, en plus, bon, je reçois ce prix à la fin d'une année qui a été très chargée pour moi de rencontres autour de Pasolini et c'était extraordinairement réconfortant. Comme vous l'avez souligné, il y a pratiquement presque un demi-siècle, en tout cas 40 ans, que je lis et traduis Pasolini. Et au départ, c'était assez difficile parce que dans les années 80, Pasolini appartenait au passé. C'est un paradoxe que 40 ans plus tard, il n'appartient pas au passé, mais au présent. Et je rappelle qu'on disait, non, mais ça c'est très marqué, Pasolini, c'est les années 70. Il y avait une sorte de refus de la liberté d'expression de Pasolini, comme si c'était un temps qui était révolu. Et maintenant, chaque fois que je fais des rencontres autour de l'œuvre de Pasolini, je m'aperçois que il y a des jeunes, bien sûr, des étudiants qui viennent me parler, qui font des thèses sur Pasolini. Et le grand réconfort, c'est qu'ils ne font pas des thèses uniquement sur le cinéma. Parce que, bien sûr, le Pasolini, pour les Français, c'est un cinéaste. Avant tout, c'est un cinéaste en effet extraordinairement important, mais c'est bien sûr un poète. Et je dis toujours que c'est un poète qui a fait du cinéma, ce n'est pas un cinéaste qui a écrit par ailleurs. Et donc, ça, c'est fondamental. Alors, l'autre chose, c'est qu'aussi la France a un rôle très particulier aussi pour Pasolini. Si Pasolini est important pour les Français, la France l'était également pour lui. Et il était francophone, ne l'oublions pas, hein, il parlait très bien français. C'est pas un hasard si je lui ai envoyé, moi, un manuscrit en français, parce qu'il avait une connaissance profonde, il avait traduit des poètes français. Et la culture française l'a énormément influencé, aussi bien les poètes, bon, Rimbaud est un poète qui comptait beaucoup pour lui, il a traduit d'ailleurs des poètes français, peu, mais il en a traduit, et les intellectuels français surtout ont été très importants pour lui, notamment la sémiologie a beaucoup compté, les analyses de cinéma qu'ont fait les philosophes français ont énormément compté pour Pasolini, donc c'était un lien très fort, et c'est pas un hasard non plus si le dernier film de Pasolini est inspiré par un écrivain français, le Marquis de Sade. Évidemment, c'est pas n'importe quel écrivain, mais c'était la rencontre qui devait avoir lieu entre cet homme inclassable et un autre homme inclassable qui est Pasolini. Alors, un dernier mot que je voudrais dire, vous disiez au fond dans ce colloque que la culture a été en retrait, disons, et la politique était au premier plan, mais évidemment, Pasolini, surgissant comme écrivain, ramène la politique, hein, et parce que l'œuvre de Pasolini est quand même extraordinairement, à la fin de sa vie en tous les cas, dominée par la politique, et on ne peut pas lire Pasolini sans faire une analyse de la prière italienne. Il est le miroir de ce qui s'est passé à partir du boom et ce qu'est devenu le boom en Italie et dans le reste de l'Europe. Comment le boom a été transformé en quelque chose de négatif à ses yeux, en tous les cas. Et malheureusement, ce qui a suivi lui a donné en grande partie raison. Hein, donc maintenant, on lit Pasolini comme un visionnaire. Alors, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi normal que maintenant, il continue à être lu. Je dois dire que ce livre est en fait la troisième version d'un livre qui avait déjà paru, mais qui à chaque fois est augmenté. Et c'est le signe, d'une part, de la fidélité des éditeurs à l'œuvre de Pasolini, mais aussi le signe qu'il y a toujours quelque chose à découvrir dans l'œuvre de Pasolini. Donc je ne voudrais pas que ce soit le dernier mot. Et je sais que beaucoup de chercheurs s'intéressent à Pasolini. Vous avez dit très gentiment que je suis l'homme de Pasolini. Je ne suis pas seul. On est nombreux quand même, parmi les universitaires et parmi les écrivains, à s'intéresser à Pasolini. Parce que ça paraît être un honneur d'être le transmetteur de Pasolini, mais c'est très très dangereux. Si on est unique, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que la transmission s'est mal faite. Il faut qu'on soit plusieurs. Il faut qu'il y ait d'autres personnes, qu'il y ait d'autres points de vue. Et en plus, Pasolini était ennemi du consensus. Et donc, surtout, je ne veux pas, moi, apparaître comme celui qui dit la vérité sur, d'abord ce serait ridicule, la vérité sur Pasolini, parce qu'il n'y a pas une vérité sur Pasolini, c'est une œuvre poétique, donc ambiguë, donc complexe, donc aux multiples interprétations, et c'est un auteur du débat. Donc le débat, il mourra le jour où il deviendra une icône incontestable. Tant qu'on est encore scandalisé, ça veut dire qu'il vit encore et que les interprétations se combattant lui donnent sa vie. C'est ça qui est unique hein, chez Pasolini, et enfin unique pas tout à fait, parce qu'il a eu un grand prédécesseur qui était Dante. Dante, c'est justement la même situation, exactement la même situation. Dante maintenant est un monument gigantesque du monde, hein, pas de l'Italie, mais du monde entier. Et Pasolini, peut-être, deviendra quelqu'un de cette œuvre-là. Moi, j'en suis profondément persuadé, même si on résiste toujours à reconnaître le génie d'un contemporain. On veut toujours repousser dans le passé le génie, mais il faut accepter l'idée qu'en effet, il y a eu quelqu'un qui est né en 1922 et qui est peut-être génial, et que c'est une très grande chance d'avoir croisé son époque. Voilà, ça c'est ma conviction. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire non, ça c'est pas possible. Donc, encore récemment, j'ai présenté Théorème dans une salle de cinéma, et une dame est venue me voir et me dire « Ah, je n'aime pas le cinéma de Pasolini, je n'aime pas. » C'est la première chose qu'elle m'ait dit, avant même que je prenne la parole, « Ah, je n'aime pas le cinéma de Pasolini. » Et au fond, c'était bien, que ce ne soit pas une admiratrice. Et puis après la projection, elle m'a dit, mais finalement, c'est pas mal le cinéma de Pasolini. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses peuvent progresser. En tous les cas, merci beaucoup pour votre reconnaissance.
S'il était nécessaire de vous rassurer à propos d'une inquiétude que vous avez manifestée, je crois que rien de ce que vous avez écrit sur Pasolini ne va mieux en faire une icône et établir une sorte de consensus mou autour de sa personnalité et de son œuvre. Mais au contraire, vous avez bien parvenu parfaitement à en montrer toutes les facettes, toutes les contradictions que Pasolini ne récusait pas d'ailleurs, qui ont parfois d'ailleurs dérouté ses propres amis. Mais qui sont l'essence même du personnage et de sa création. Voilà, je ne sais pas si dans la salle, certaines personnes veulent, sans abuser, bien entendu, de la présence de l'Institut, mais veulent intervenir, poser une question, faire un commentaire.
Je pourrais ajouter un petit détail.
Eh bien, si tu veux, Paolo. Bien.
Un petit détail, c'est-à-dire italique. Italique possède aussi une autre personnalité espagnole qui est le grand spécialiste et traducteur en Espagne de Pasolini, c'est-à-dire Miguel Ángel Cuevas. Un traducteur et le grand spécialiste espagnol de Pasolini, donc il fait partie d'Italie. Voilà, c'est un petit détail, mais enfin, peut-être utile de le savoir.
Voilà. Merci de cette précision, Paolo.
Voilà. Bon, ben, écoutez, chers amis, s'il n'y a pas d'autres interventions, il me reste à vous remercier de votre présence. Nous avons passé deux journées très agréables. Nous concluons dans ce cadre merveilleux du Teatrino Siciliano, magnifique, travailler dans ce cadre, un enchantement, et y célébrer un bon écrivain, et ben c'est normal, ça s'y prête très bien. Voilà. Merci à vous.